Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La médiation. On connaît le médiateur de la République, on sait qu'il y a des médiateurs dans les quartiers difficiles, mais sait-on que l'on peut avoir recours à un médiateur dans bien d'autres circonstances? Conflits de voisinage, problèmes familiaux différents dans une entreprise, la liste est longue des circonstances dans lesquelles la médiation est un recours salutaire. Alors qu'est-ce que la médiation? D'où vient-elle? En quoi consiste-t-elle vraiment? Comment y avoir recours? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. Voilà pour cette émission, donc médiation, réalité et bienfait, avec un S à réalité et avec un S à bienfait. Je reçois ce matin le père Luc Thomasson, vous êtes recteur de l'Institut catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
François Rastoul, vous êtes avocat et médiateur et responsable de l'association médiateur ad hoc, bonjour.
Bonjour.
Françoise Ousti, vous êtes responsable d'un cabinet de conseil, médiateur, puisqu'on ne dit pas médiatrice, membre de l'Association nationale des médiateurs et déléguée régionale pour le Grand Sud-Ouest, bonjour.
Bonjour.
Et Yves Besset, vous êtes vous chargé de mission pour AVS, donc une entreprise, et vous avez eu recours à la médiation au nom de cette entreprise, vous nous raconterez tout ça. Alors on va commencer avec vous, père Luc Thomasson, la médiation, qu'est-ce que c'est? Alors vous avez donné, je crois, à l'ICT, enfin vous avez participé à une table ronde sur le sujet, alors je me suis servi de cette table ronde comme une antisèche, voilà, je dévoile le dessous des cartes. Vous disiez avec humour au début de cette intervention qu'il ne faut pas que la médiation est un médium, mais non pas pour invoquer les esprits, mais au sens d'un outil de transmission ou de communication.
Oui, si vous voulez, avant de rentrer dans les applications dans le domaine juridique, dans le domaine du droit, je crois que c'est intéressant de se poser simplement la question dans le langage courant. À quoi renvoie le terme de médiation? Donc c'est l'activité de quelqu'un qui se présente justement comme médiateur. Qu'est-ce que c'est que le médiateur? Donc bien sûr, ça renvoie à la notion d'intermédiaire, quelqu'un qui est au milieu, qui n'est pas simplement spectateur, qui n'est pas au-dessus, qui est facilitateur aussi. Ce qu'on attend d'un médiateur, c'est qu'il mette en correspondance les deux parties, éventuellement bien sûr en conflit, en litige, mais pas forcément uniquement. Hein. La médiation peut se penser dans un cadre plus large, comme celui, donc le médiateur, c'est celui qui unit et qui est dans une situation aussi un petit peu paradoxale, parce qu'il doit être d'une certaine manière du côté des deux parties et d'être impartial aussi, d'être pour aucune. Il faut qu'il ait une neutralité, sinon s'il tire d'un côté plutôt que de l'autre, la médiation va échouer. Donc c'est à la fois très, très utile, très, très efficace et très paradoxal. Un médiateur, il est vraiment celui qui va faciliter une relation, alors en particulier quand cette relation est crispée, quand elle devient litigieuse, etc. Mais l'idéal, c'est que la médiation puisse être même bien en amont, justement, dans le sens d'une facilitation de la communication des relations. Alors, effectivement, bon, on parle par exemple du médium pour rentrer en communication avec les esprits, donc c'est dans un sens et c'est sporadique. Mais on peut dire aussi que la médiation, elle existe depuis très longtemps sous d'autres formes. On peut dire qu'un diplomate, par exemple, par essence, un diplomate, c'est un médiateur. C'est quelqu'un qui doit faciliter les rapports entre les États, déminer ce qui pourrait être conflictuel, faciliter les traités de paix, etc. Donc la médiation, elle existe depuis l'origine de l'humanité, depuis que des relations peuvent être un peu compliquées, depuis qu'elles doivent devenir plus fluides.
Voilà, et vous vous mettez dans l'eau les journalistes et les responsables de communication, donc c'est bien, ça m'a fait réfléchir sur mon métier.
Mais oui, quand on parle des médias, les médias. Et c'est là qu'on voit que les médias, le rôle des médias, qui est pas simplement, d'informer, hein, de manière didactique, mais de donner la parole, comme vous le faites là, à Vivante Église, D'une certaine manière, là aussi, vous êtes un relais entre des personnes qui peuvent avoir des connaissances, qui peuvent avoir une expérience, qui peuvent en tout cas partager avec les auditeurs, ce qui concerne le thème en question.
Alors un peu plus loin dans cette intervention, vous disiez que le médiateur doit malgré tout être au service du juge et plus encore du droit et ne doit pas être à côté. Alors pourquoi cette précision? Pourquoi c'est important de le préciser?
Eh bien, je pense bien sûr qu'il y a un certain nombre de qualités que l'on demande donc du médiateur. Hein. Il ne faut pas qu'en facilitant les relations de manière occulte, ces relations soient biaisées, que finalement que ce soit une ruse pour amener une des parties à s'aligner complètement sur les intérêts de l'autre. Voilà. Donc il y a cette notion justement d'impartialité est importante, mais aussi l'idéal, c'est pas simplement de trouver un modus vivendi qui puisse être une conciliation des intérêts qui laisse les parties les moins mécontentes possibles, mais c'est carrément d'arriver à une solution juste autant que possible. Donc
Alors, avant qu'on aille plus loin, il y a une question que je vais vous poser, c'est est-ce que la médiation vous tient particulièrement à cœur? Parce que c'est vrai que j'imagine que vous êtes quelqu'un de très débordé. Quand je vous ai sollicité, vous avez tout de suite répondu oui. Alors je me suis dit, oh, il doit avoir soit beaucoup d'amitié pour Maître Rastoul, soit c'est un sujet qui doit lui tenir à cœur.
Alors, soit beaucoup d'amitié pour Emmanuel Pellat aussi. Ça ne peut pas exclure.
Peut-être.
Et pour Radio Présence en général.
Mais je me souviens d'une émission, en tout cas, on avait fait une émission sur la guerre juste après les attentats en novembre, oui. Et j'avais cru comprendre que... voilà, la non-violence ou tous les outils qui peuvent être au service de la paix sont des choses qui vous tiennent à cœur.
C'est-à-dire plus généralement un petit peu toutes les questions éthiques m'intéressent. Donc là je pense qu'on est dans un domaine qui est à la fois un domaine de la vie courante ou de l'expérience, qui touche à des questions de droit, mais qui touche aussi bien sûr à des questions d'éthique, parce que la médiation elle est clairement évidemment au service de la paix.
Quelle est la racine étymologique de médiation? Est-ce que vous sauriez nous dire? Parce que parfois ça éclaire davantage. Est-ce que ça peut éclairer?
Bien, la racine, c'est les trois premières lettres, M-E-D. Hein, donc c'est justement ce qu'on retrouve dans intermédiaire, dans médium, dans média. Donc c'est ce qui est, entre deux parties, mais pas simplement comme une sorte de moyenne arithmétique, mais en étant unis aux deux, et donc en unissant.
Est-ce que l'un ou l'autre, Maître Rastoul ou Françoise Ousty, voulait ajouter quelque chose à cette définition de ce qu'est la médiation?
Alors ajouter quelque chose, ça serait difficile, tellement les propos qui viennent d'être tenus sont riches, et nous élèvent et nous éclairent. J'ai retenu des mots forts comme l'impartialité, la justice, le juste. Je crois que ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que la médiation, c'est un esprit. L'esprit de la médiation, c'est de donner du sens à des relations qui peuvent avoir été... par des accidents de la vie, être interrompu, que ce soit des relations sociales, familiales ou dans le milieu économique. Donc le sens de la médiation, c'est de rétablir ce dialogue et de rechercher la paix, l'apaisement. C'est aussi le but de la justice. Les buts sont communs, il n'y a que les moyens, le cheminement qui change. D'un côté, le juge qui, lui, va couper, va trancher, de l'autre le médiateur, qui est un facilitateur, le mot a été dit, on pourrait dire aussi un catalyseur. Voilà. Et au-delà de tout ça, de cet esprit, de ce sens, je crois qu'il y a aussi une valeur très importante à accorder à la médiation, qui me paraît essentielle, c'est de redonner la parole aux citoyens. Le citoyen qui, de plus en plus, me semble-t-il, par l'évolution des mœurs de la société, en est départi. Quand on a une difficulté, on se tourne vers le médecin, on se tourne vers l'avocat vers le juge. Eh bien, avec la médiation, le citoyen reprend la parole. C'est le but du médiateur, de la lui redonner, de l'écouter et de faire en sorte que deux personnes en conflit réussissent à s'entendre. Voilà.
François Zousti, sur cette définition de la médiation, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter ?
Oui, effectivement, beaucoup de choses viennent d'être dites et des choses riches et intéressantes, comme le relève Maître Rastoul. Sur la définition en elle-même, effectivement, c'est, comme le disait Père Thomas, c'est assurer du lien, c'est-à-dire on est au milieu de quelque chose. Et ce milieu-là permet d'avoir un prisme finalement d'action qui est beaucoup plus large que le prisme pur de la justice, si on devait parler de la justice en tant que pratique judiciaire, et qui finalement autorise la médiation, si je m'en tiens à la médiation et pas pour l'instant au rôle du médiateur, à pouvoir œuvrer sur deux champs différents, c'est-à-dire à la fois la solution, comme vous le releviez, Père Thomas, mais aussi la relation en elle-même. C'est-à-dire que la médiation prend une situation de façon globale. Elle ne dit pas simplement il y a un litige entre les individus, il nous faut une solution, il nous faut une solution vite. Elle dit ok, il faut une solution, c'est un fait, mais s'il y a eu un litige ou un différend, c'est qu'en amont, des choses n'ont pas été comprises entre les personnes. Donc nécessairement, la médiation a pour objectif aussi de maintenir la relation quand c'est possible. Alors, agent de paix, facilitateur, faiseur de paix aussi, l'on peut dire parfois. Bien sûr, c'est le but ultime de la médiation, mais la médiation, on peut peut-être le dire d'ores et déjà, parce que ça permet aussi de fixer les termes du débat, elle n'est pas faite uniquement pour relier, contrairement aux apparences. C'est-à-dire qu'elle va permettre d'assainir une situation, mais parfois, pratiquement, concrètement, elle aboutit à se séparer. Mais elle aboutit à se séparer de façon convenable, c'est-à-dire sans qu'il y ait de rupture ou intra-entreprise ou intra-familiale, de maintenir quand même, si c'est possible, un minimum de relations. Et si je m'en tiens notamment aux affaires familiales, de maintenir un lien qui, lui, est indéfectible.
Voilà. Alors, dans cette même table ronde, pardon, je m'en inspire, mais vous demandez si c'était un casque bleu, si c'était des casques bleus les médiateurs. Alors, on voit que c'est pas tout à fait le cas, puisque enfin, les casques bleus, on va dire, ont pas toujours bonne presse, puisqu'on a l'impression que, hormis s'interposer, ils servent pas à grand chose d'autre. Là, c'est un casque bleu.
Et parfois, ils ont l'obligation d'être spectateurs, parce qu'ils ne doivent pas s'engager. Donc,
alors là, la différence fondamentale, c'est qu'en fait, c'est les parties qui font appel à ce casque bleu qui est le médiateur pour trouver une solution dans un délai, en plus, décidé à l'avance, c'est ça?
Oui, le seul point de ressemblance, si je puis dire, avec le casque bleu, c'est l'aspect force d'interposition, si je puis dire, et la finalité qui est la paix. Mais sinon, je pense que, heureusement, la médiation est souvent plus riche dans son contenu que le rôle des casques bleus qui dépend beaucoup de décisions politiques qui peuvent être parfois malheureusement aussi des décisions d'inaction.
Alors, puisque vous êtes prêtre, on en profite. Est-ce qu'il y a des grandes figures bibliques, alors avant évidemment qu'on parle du Christ, est-ce qu'il y a des grandes figures bibliques qui seraient des figures de médiation et qui peuvent nous éclairer sur ce qu'est un médiateur ?
Oui, il y en a énormément dans les fonctions du Messie, donc qui sera reconnu en Jésus, mais qui sont déjà en œuvre dans l'Ancienne Alliance. Donc il y en a trois, prêtre, prophète et roi. On peut dire déjà que le prophète assume déjà une part de médiation, dans la mesure où il transmet, il assure un certain lien avec Dieu, dans la mesure où il fait connaître en quelque sorte la pensée et la volonté de Dieu. Donc il y a déjà un rôle d'intermédiaire, et surtout la fonction du prêtre. Donc tous les prêtres sont des médiateurs, déjà dans le cadre de l'Ancienne Alliance, et bien sûr aussi dans le cadre de la Nouvelle, intermédiaire entre l'homme et Dieu. Mais
on a presque l'impression, en vous entendant, que c'est un service divin, en fait, la médiation. Alors,
écoutez, dans le meilleur des cas, l'humain est assumé au niveau du divin. Mais on a quelque chose de tout à fait particulier dans le cas du Christ, bien sûr, c'est qu'il a une médiation tout à fait singulière, parce qu'il est à la fois homme et Dieu. Donc il est vraiment du côté des deux parties, si j'ose dire. Il a pas à se forcer, en quelque sorte, pour conjoindre les intérêts des deux parties. Et en plus, elles ne sont pas en litige. Donc c'est une médiation tout à fait particulière, mais qui est, on peut dire que c'est le médiateur, effectivement, la médiation la plus réussie quand même. Le salut de l'humanité, c'est pas mal quand même comme médiation.
Est-ce que vous pouvez l'expliciter? Parce qu'on peut dire, on peut pas dire, même quand on est chrétien, qu'on entend souvent parler du Christ comme du médiateur par excellence. Donc si vous deviez, comment dire, repréciser,
ben on trouve ça quoi, c'est le médiateur par excellence. Dans l'Épître aux Hébreux, hein, ou dans la première Épître à Timothée, on nous dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc c'est celui qui va réconcilier l'humanité avec Dieu, parce que d'une certaine manière, le péché, on peut l'assimiler à une certaine forme de conflit. Et donc c'est lui qui va rétablir cette connexion par le salut. Et alors il y a quelque chose aussi qui mérite attention, c'est que il va en payer le prix. Il paye de sa personne. Et ça, je crois que ça fait partie aussi de la médiation.
Alors, on verra ça après une pause musicale. A priori, nos invités n'ont pas les têtes cabossées, mais peut-être payent-ils le prix autrement. C'est ce que nous allons voir tout de suite après cette pause.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, une émission sur la médiation, réalité et bienfait, avec autour du plateau, si vous nous prenez en cours de route, le père Luc Thomasson, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, François Rastoul, avocat et médiateur et responsable de l'association des médiateurs ad hoc, Françoise Ousty, qui est responsable d'un cabinet de conseil et médiateur, et qui représente pour l'Association nationale des médiateurs, donc la délégation régionale du Grand Sud-Ouest, et Yves Besset, qui est chargé de mission auprès d'une entreprise qui s'appelle AVS et qui a eu recours au nom de l'entreprise à une médiation et qui nous dira en quoi, enfin, qui nous parlera de ce cas d'école. Alors, la parole est davantage maintenant, j'ai envie de dire, aux professionnels de la médiation, donc François Rastoul et Françoise Ousty. Première chose, d'abord, qui sont les médiateurs? Alors, j'ai trouvé un certain nombre d'informations en préparant l'émission, et à peu près autant d'hommes que de femmes. C'est surtout des juristes, donc des gens, on imagine, qui sont confrontés à des situations conflictuelles, des psychologues ou des coachs qui sont médiateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu un panorama de ce qui n'est pas une profession? Vous disiez c'est une fonction ou une activité, François Rastoul.
Tout à fait. Médiateur, ça n'est pas, en tout cas pour le moment, un métier. C'est une fonction. Et les textes qui régissent les fonctions de médiateur précisent que les qualités de ce médiateur, ça doit être une expérience professionnelle, quelle qu'elle soit. Bien sûr, les juristes sont certainement les mieux adaptés spontanément à pratiquer la médiation, mais ce n'est pas une exclusive pour les juristes. Un journaliste peut être médiateur, une épouse au foyer peut être médiateur, mais il faut tout de même une expérience, un vécu. Voilà, d'une part. Et d'autre part, une technicité que l'on acquiert en suivant une formation pour devenir médiateur. Et ces formations, elles sont dispensées à la faculté, dans certains instituts catholiques. Oui, et j'espère que l'Institut catholique toulousain, bientôt, je me tourne vers...
Etac, c'est placé. Il y a combien de médiateurs en France, François Rastoul? Est-ce que vous savez? Vous êtes quelques milliers pour l'instant.
Je ne sais pas, peut-être que François Ousty pourra vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans notre association, nous sommes à l'heure actuelle 22 médiateurs. Et ce que nous avons voulu, justement, c'est pour illustrer votre question, ce que nous avons voulu, c'est qu'il n'y ait pas que des juristes. Je suis avocat, vous l'avez dit, mais moi j'ai souhaité que, bon, certes, les professions juridiques soient représentées, les avocats, les notaires, les huissiers, etc. Nous avons d'ailleurs toutes les professions réglementées qui sont représentées dans notre association, mais nous avons voulu l'élargir. Et donc il y a des personnes à la retraite, des fonctionnaires à la retraite, des enseignants à la retraite, il y a des médecins, il y a... Enfin, etc., etc. Voilà. Et nous nous sommes tournés vers la médiation conventionnelle, on en reparlera peut-être dans un moment, qui est celle qui vient en amont et qui vient... en principe, qui doit venir spontanément et avant la médiation judiciaire.
Alors donc, tout le monde peut être médiateur d'une certaine manière. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même des conditions morales. C'est-à-dire que le père Luc Thomasson a décrit au début quel était son rôle. Et comment vous vérifiez, enfin, on va dire, les qualités morales de la personne, ou en tout cas les raisons pour lesquelles elle choisit d'être médiateur? Parce que c'est quand même un rôle très particulier.
Oui, alors bien sûr, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, on attend ça du médiateur, bien évidemment.
Un minimum, donc vous les présentez tous au père Luc Thomasson,
de probité. Exactement, voilà, on va passer d'abord par l'observation. Absolument. Ça pourrait en faire partie, mais la difficulté, comme ça vient d'être évoqué, c'est que nous n'avons pas de visibilité sur le nombre de médiateurs en France. La seule visibilité que nous ayons, c'est à l'intérieur de nos propres associations, ou l'image que l'on connaît, enfin les relations que l'on a avec d'autres associations, qui fait que, voilà, nous, alors à l'ANM, on compte à peu près 500 adhérents, donc 500 médiateurs.
L'Association nationale des médiateurs.
Voilà, sur l'Association nationale des médiateurs, et sur l'Association des médiateurs du Grand Sud-Ouest, nous devons être une quarantaine actuellement. Voilà, je dis quarantaine parce que comme les frontières régionales se sont élargies, j'ai pas encore de visibilité complète sur ce nombre de médiateurs. Après, comme ça a été spécifié, bien sûr, il faut une expérience, enfin légalement, une expérience en gestion des conflits plus parce que ça fait partie aussi de ce que de
ça
plus
veut dire
en
quoi,
plus.
Ça veut dire quoi une expérience en gestion du conflit?
Justement, enfin gestion du conflit, habitude pour gérer un conflit. C'est les textes de loi qui l'indiquent comme ça.
Donc mère de famille, ça marche.
Sans autre
ça,
précision, ou... sans autre précision. Disons que il faudra peut-être alors après pour répondre d'abord à votre question, mais ensuite distinguer peut-être la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle. Disons que le principe d'une personne qui veut être médiateur, elle peut prétendre à être habituée à gérer des conflits. Sauf que, et là c'est une communauté qui se met en marche dans l'idée que ça n'est quand même pas suffisant, et comme le relevait Maître Rastoul à l'instant, il faut aussi une technicité, ce qui suppose quand même une formation de base pour éviter d'amplifier un conflit, parce qu'on va sur un matériau qui est quand même extrêmement sensible, avec des raisons pour ces conflits-là qui font que s'il manque de technicité, la conséquence, ça peut être effectivement d'amplifier. Donc il faut quand même se former. Voilà. Dans ces formations-là, après, il y a des sélections qui se font la plupart du temps, surtout quand les formations sont de type universitaire, en amont. Et ensuite, bon, mais on aura l'occasion d'y revenir, je suppose, dans l'émission, cette formation-là, elle fait aussi cheminer les personnes dans une posture particulière qui sera celle du médiateur.
Alors voilà. Les formations, on verra après, on peut peut-être déjà, d'ores et déjà parler des domaines d'application. Alors je l'ai cité en introduction, en fait ils sont multiples, hein. Ça peut être un conflit entre voisins, ça peut être un conflit familial, un conflit dans une entreprise, etc. etc. François Rastoul, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les domaines d'application de la médiation? Pour tout type de conflit, on peut avoir recours à un médiateur presque?
Oui, tout à fait, tout type de conflit, il n'y a pas véritablement d'exclusive au domaine de la médiation. Simplement, quand le conflit devient litige, quand il reçoit un habillage juridique. Donc quand le conflit devient litige, là à ce moment-là, il faut faire appel à la médiation judiciaire. Mais sinon, sauf si les parties veulent véritablement, les justiciables veulent véritablement trouver une solution juridique à leur problème, c'est-à-dire avoir une décision d'une cour d'appel, voire d'une cour de cassation. En dehors de ce cas de figure bien particulier, il n'y a pas d'exclusive à la médiation, tout type de conflit. Alors, les conflits...
Alors, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples, et puis après peut-être faire la distinction entre la médiation conventionnelle et judiciaire? Donnez-nous des exemples précis que ça
alors,
vous,
c'est certainement
vous mettre dans le jus.
C'est certainement dans les relations, dans les relations sociales, dans les relations entre voisins, entre copropriétaires, qu'on trouve le plus grand nombre de conflits. Ensuite, en matière familiale, tout ce qui est lié à la rupture du lien conjugal, tout ce qui ressort des liquidations de succession, tout ce qui ressort des liquidations de régimes matrimoniaux après un divorce, cette matière-là, elle est bien sûr destinée à la médiation. Voilà, mais ensuite, dans les relations économiques, et notre témoin d'aujourd'hui pourra en parler, dans les relations économiques, dans les relations sociales, du travail, la médiation aussi a un rôle très, très important. En bref, s'il devait y avoir un point commun à toutes ces matières qui prédestinent la médiation, eh bien, c'est de trouver une solution quand il y a de l'humain, quand il y a de l'affect, c'est là que la médiation joue son rôle essentiel.
Quelle est la dernière médiation que vous avez faite? Est-ce que vous pouvez nous la dire sans donner les noms?
Alors, la dernière médiation, c'était hier après-midi. C'était une médiation judiciaire en matière sociale. Un agent commercial depuis très longtemps dans la même entreprise, 15 ans, qui est licencié. Et il n'y avait jamais eu, après 4 années de procédure devant le conseil des prud'hommes d'abord, devant la cour d'appel ensuite, il n'y avait jamais eu de contact direct entre l'employeur et le salarié après son licenciement, et si ce n'est dans des phases très formalistes, comme l'entretien avant le licenciement, ou comme la conciliation devant le conseil des prud'hommes, mais qui sont des passages obligés, mais très, très formalistes. Et hier, ces gens. D'un côté, le représentant de l'employeur, c'est un grand groupe national, donc c'était le DRH qui était là, et de l'autre côté, le salarié, eh bien, ont pu se parler autour d'une table ronde comme celle-ci. Ils ont pu s'écouter, s'entendre, et ils ont eu une perception tout à fait différente de leur conflit, parce qu'ils ne l'avaient pas vécu du tout de la même façon. Et je pourrais même dire que leur conseil, les avocats qui étaient également autour de la table, ont perçu le dossier
différemment. Oui, rien que ça suffit presque à nous convaincre. François Zousti, est-ce que vous pouvez nous faire la distinction entre la médiation conventionnelle et judiciaire, puisqu'on en a pas mal parlé? Quelle est la différence?
La différence essentielle, c'est qu'il y a une activité humaine qui a conduit devant le tribunal ou une activité humaine qui n'a pas encore conduit devant le tribunal. Puisque fondamentalement, la médiation sera la même, le médiateur sera le même, il obéira aux mêmes conditions puisque nous nous faisons fort en tant que médiateur de répondre à toutes nos obligations déontologiques. La seule différence, c'est qu'il y a une action qui est levée devant le tribunal, devant la justice, alors qu'elle n'existe pas de l'autre côté. Après, bien évidemment, il y a tout un environnement qui va conditionner la médiation judiciaire, puisque le médiateur sera saisi parce qu'il a été missionné par un juge et il doit répondre à un certain nombre de conditions de temps, notamment dans la conduite de la médiation, et ensuite ce qui n'existera pas nécessairement dans la médiation conventionnelle. La différence, c'est que dans la médiation judiciaire, le médiateur est saisi par le juge, où il est demandé éventuellement par les parties. Dans la médiation dite spontanée ou conventionnelle, c'est tout un chacun qui peut, s'il a connaissance d'un médiateur, aller à sa rencontre pour soumettre sa situation, parce qu'il n'a pas envie d'aller justement en découdre devant le juge, concrètement. Voilà.
Comment se passe après la médiation? Est-ce qu'on peut décrire? J'ai cru comprendre, en effet, puis vous l'avez dit, qu'il y avait un délai. Enfin, il faut que les deux parties, en fait, soient d'accord, déjà, j'imagine, sur le médiateur. Il y a un délai, c'est-à-dire qu'en 6 mois, ça doit être réglé. Est-ce que vous pouvez, entre guillemets, faire de la retape pour la médiation? Il y a quand même un certain nombre d'avantages. C'est moins cher, ça va plus vite. C'est...
Oui. Alors, tout d'abord, un point très important qu'il faut souligner. Dans le droit français tel qu'il existe à l'heure actuelle, la médiation ne peut jamais être imposée. Un juge n'a pas le pouvoir d'imposer la médiation aux parties. Donc, c'est ça qui est très important et qui ressort de l'esprit de la médiation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait fondamentalement une volonté des parties d'aller en médiation et donc avec cette intention de trouver une solution, quelle qu'elle soit. Ça peut être un protocole qui va être signé noir sur blanc, mais ça peut être aussi simplement la nécessité de se reparler, le besoin de rétablir une relation qui a été interrompue. Donc, pas de médiation obligatoire. Il n'y a qu'une exception. C'est en matière de conventionnel où il est possible, dans un contrat, d'insérer une clause de médiation. Et quand une telle clause, et ça c'est à l'adresse des chefs d'entreprise, que c'est important de le souligner, quand une clause de médiation figure dans un contrat, elle s'impose aux parties. Mais elle s'impose aux parties parce qu'elles l'ont voulu. Elles l'ont voulu dès l'origine dans la convention qu'elles ont signée. Donc, elle devient obligatoire, mais elle est obligatoire toujours par la volonté des parties. Donc, voilà pour ce qui est de la volonté des parties et de l'absence d'obligation à la médiation, sauf ce cas de médiation de clause conventionnelle. Ensuite, la durée, elle est inscrite dans le temps et limitée dans le temps, 3 mois, renouvelable une fois pour une durée équivalente. Alors certes, en médiation conventionnelle, on peut prendre un peu plus de liberté à partir du moment où les parties le souhaite.
Et 3 mois ou 6 mois, ça fait combien de rencontres, c'est grosso modo?
Alors, on peut... L'intérêt de la médiation...
C'est fonction du dossier,
c'est... C'est très variable. C'est
d'une extrême souplesse. D'ailleurs, on parle de processus de médiation et non pas de procédure. La procédure, c'est devant les tribunaux. On est sur des rails. Et comme le train, on ne peut pas sortir de ces rails, sinon on déraille. La médiation, c'est un processus. C'est une enveloppe très souple. Donc on peut y mettre ce que l'on veut et le médiateur s'adapte aux besoins des parties et du conflit qu'il a à traiter. Donc autant de réunions, par exemple celle que j'ai tenue hier, elle a duré 2 heures, elle aurait pu durer davantage. Les parties ont souhaité faire une pause. Je m'entretiendrai individuellement avec chacune d'entre elles et avec leur conseil. Et puis nous reprendrons une réunion plénière dans quelques temps. Voilà, il faut laisser du temps au temps, il faut laisser des respirations, mais une médiation peut se faire en une réunion de 2 heures. Une autre va exiger plusieurs médiations. Bon, l'essentiel, c'est que ce temps soit utile, hein, qu'il n'y ait pas d'effet dilatoire, et on en revient toujours à la volonté des parties. À partir du moment où les parties veulent arriver à une solution, eh bien, le débat est assaini et le parcours est plus simple.
Alors, peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, c'est vrai qu'à vous entendre, il y a quelque chose qu'on a un peu du mal, enfin, à comprendre quand on est extérieur, c'est qu'on se dit, si la médiation a autant de bienfaits, puisque vous disiez même que vous, elle vous avait, enfin, dans le cas que vous citez, elle avait éclairé même les avocats en présence, pourquoi est-ce que la médiation n'est pas, on va dire, automatique dans tout conflit? Pourquoi est-ce que la justice ne se dote pas à chaque fois d'un médiateur pour essayer de faire en sorte que les gens se parlent, que les relations s'apaisent? Donc voilà, vous avez essayé de tenter de répondre à cette question. Et je glisse une autre question à l'intérieur de ça. La médiation, semble-t-il, est relativement récente en France, ça date de 1995. Pourquoi, enfin, tout d'un coup, on s'est mis à vouloir faire de la médiation?
Alors, c'est François, deux questions à prisme large. Voilà. Alors, pour répondre à votre première question, la réponse a été plus ou moins donnée. Si la médiation peut-être se développe pas suffisamment encore, si c'est le sens de votre question, dans l'idée qu'elle serait obligatoire, puisque c'est comme ça que vous avez positionné la question.
En tout cas, on a l'impression que c'est un bienfait réel, donc on se dit aussi que ça pourrait aider, y compris à faire
de
manière habituelle des professions judiciaires.
Absolument. La réponse a été donnée à l'instant, c'est-à-dire que la médiation est spontanée, elle est volontaire. Donc ça rentre dans un cadre juridique qui est celui de l'autonomie de la volonté. Je ne vais en médiation que parce que je souhaite y aller.
Enfin, on peut le suggérer aujourd'hui.
Bien sûr, on peut le suggérer. Donc si la démarche est volontaire, c'est difficile de la rendre obligatoire, parce que ça fait partie aussi... Alors, en dehors du processus technique et de la technicité de la chose, ça fait partie aussi du rouage psychologique qui fait que ça fonctionne bien. Parce qu'on ne vous impose pas quelque chose. Et c'est parce que, justement, c'est ainsi qu'elle se démarque d'autres modes de régulation, et notamment de traitement ou de gestion des conflits, ou de résolution des conflits, puisque les individus vont maîtriser complètement la solution qui va ressortir de l'espace de médiation. Pourquoi c'est pas plus développé? Parce qu'il y a des résistances au départ. Qu'est-ce que la médiation? Après tout, on l'a dit, c'est ni une profession, c'est ni un métier, c'est à peine réglementé au niveau de la médiation familiale, où il existe un diplôme d'état de médiateur familial, mais pas au-delà, le titre n'est pas protégé, donc il faut aussi savoir à qui on s'adresse. C'est la raison pour laquelle l'on insistait tout à l'heure sur le fait que oui, il faut une expérience en gestion des conflits, mais il faut aussi avoir une formation solide pour assurer la mise en relation des personnes, parce que l'intérêt de la médiation, c'est pas de traiter chacun le conflit de son côté, mais c'est d'assurer la mise en relation. Donc c'est peut-être aussi une des raisons. Autre raison, si vous permettez, c'est que ce n'est pas facile pour les personnes de se retrouver en face à face avec quelqu'un avec qui on est en difficulté. Donc ça demande aussi un environnement, ça demande un travail préalable, et les personnes qui viennent en médiation ont aussi ce courage-là. C'est-à-dire de se dire, bon, j'accepte d'entrer en discussion, de me retrousser les manches, de parler de ce qui nous oppose aujourd'hui, de ce qui nous fait mal aussi aujourd'hui, parce que ça, c'est valable qu'on soit en famille, en travail, en copropriété, un conflit, ça fait mal. On n'est pas bien avec ça. Donc, il faut aussi se mettre à la place des personnes qui viennent en médiation. Et c'est pas évident de se retrouver avec quelqu'un avec qui on est en conflit depuis 4 ans, 5 ans, voire plus, ou avec qui on se sépare et contre qui on a quand même de nombreux griefs. Voilà. Après, la deuxième question, si vous vouliez bien me la reposer, ça me permet.
Non, mais vous avez commencé à répondre aussi. Vous dites que c'est relativement récent. C'est arrivé en 1995 en France.
Dans la loi. Dans la loi, c'est arrivé dans la loi en 1995.
C'était déjà une pratique, en fait, ou...
Oui, notamment, puisque Maître Rastoul l'a relevé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les pratiques commerciales, depuis longtemps, il existait des clauses ou d'arbitrage ou des clauses de médiation qui n'étaient pas nécessairement réglementées, mais la médiation en elle-même, elle n'a pas besoin d'être réglementée. En revanche, c'est le médiateur qu'il faut réglementer d'une certaine façon, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Puisque s'il y a une chose que l'on partage, au moins entre Christ médiateur et médiateurs simples humains et humbles humains, c'est d'aller justement dans une démarche de loyauté, de bienveillance et d'humanité. Alors, il ne suffit pas d'avoir ces valeurs-là, ou je dirais ces qualités-là, il faut aussi qu'elles rentrent dans... dans un savoir-faire. C'est plus le médiateur qui a été réglementé que la médiation en elle-même. Mais c'est relativement récent, voilà. Pour des raisons aussi de résistance, qui étaient certainement des résistances dans l'idée et la culture même qui est la nôtre, à bon escient. Je veux dire, le protocole judiciaire et la justice a sa valeur d'être, bien sûr, mais ça faisait partie des résistances possibles au développement, pas que de la médiation d'ailleurs, mais des modes amiables en général.
François, si vous voulez rajouter un mot, non, juste avant
oui,
qu'on fasse
oui,
une pause.
Je crois que les conseils, hein, au sens large, c'est-à-dire les juristes, avocats, notaires, etc., ont un rôle important à jouer dans le développement de la médiation. Parce que c'est le conseil juridique qui va pouvoir mettre le justiciable sur la voie de la médiation et non pas se tourner traditionnellement, systématiquement vers le juge. Donc, et le juge aussi a ce rôle important à jouer. On le voit d'ailleurs aux audiences de plus en plus. Les magistrats maintenant suggèrent la médiation. Aux avocats ou aux parties quand les magistrats les ont en face d'eux. Voilà, ce rôle de conseil est important. Il faut que les juristes comprennent que avec la médiation, ils ont un outil supplémentaire. Ça ne remplace pas le judiciaire, mais ça vient le compléter. D'ailleurs, moi, je préfère dire mode amiable de résolution des litiges que mode alternatif. La médiation n'est pas une alternative à la justice ou au judiciaire. C'est un complément. Et pour terminer sur la législation, la réglementation, effectivement, en France, la médiation, elle rentre dans le code de procédure civile en 1995, mais ce que l'on constate depuis, et depuis ces dernières années, on peut dire depuis 2012, c'est une multiplication des textes et le législateur, ce qui montre que le législateur a la volonté de développer, d'institutionnaliser la médiation et de la faire rentrer dans le moule des institutions, des codes civils, de procédure civile, et même maintenant du code du travail, alors que jusqu'à présent, jusqu'à un décret récent de cette année, la médiation était tenue un peu à l'écart du droit social.
Alors, juste...
Excusez-moi, on va faire une deuxième pause, hein, pardon, et puis après on reprendra, parce que je voudrais qu'on donne quand même la parole à Yves Besset.
De ne plus être un métronome qui du soir au matin a la même figure monotone de celui qui s'est perdu parmi les siens. Ça change un homme de faire du bien, des petits riens en somme, du soir au matin, de sentir son cœur qui résonne comme un simple tambourin. Ça change un homme. Ça change un homme de faire du bien. Hey! Ça change un homme d'être enfin un soutien, ne plus être celui qui désarçonne, qui dégomme pour un oui, pour un rien, mais qui enlève enfin son uniforme, qui se met à nu, enfin humain, qui respire comme on se déboutonne. Ça change un homme de penser enfin au lendemain, les nuits, les jours, c'était tout comme cet homme-là avait perdu les siens. Il vivait comme on s'abandonne, sous la pluie, la grêle, le crachin, et aujourd'hui il chantonne. Joli couplet et beau refrain, le long de la rue piétonne. Mais si un jour tu lui pardonnes, si un jour tu le veux bien, tu verras que de ce bonhomme, tu verras que de ce beau rien, il ne reste rien en somme, il ne reste plus qu'un homme qui ne veut que ton bien.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission donc médiation, réalité et bienfait avec autour de la table le père Luc Thomasson, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, François Astoul et Françoise Ousty qui sont tous les deux médiateurs et qui représentent différentes associations, médiateurs ad hoc et l'Association nationale des médiateurs, tout du moins pour le Grand Sud-Ouest, et Yves Besset. Alors Yves Besset, vous êtes donc chargé de mission pour AVS. Alors en quelques mots, et puis après je vous cuisinerai, dites-nous déjà qui est AVS. Et pourquoi cette entreprise a eu recours à un médiateur ?
Alors, le groupe AVS est le leader français du portage salarial pour tous les métiers. Disons que c'est un généraliste qui va au-delà des professions intellectuelles et qui accueille des professions artisanales.
D'accord. Et alors, le cas en l'occurrence pour lequel donc l'entreprise a choisi d'avoir recours à un médiateur, quel était-il ?
Alors, cette médiation est intervenue dans le cadre d'un conflit entre une ancienne salariée qui avait été licenciée et l'entreprise, sans qu'il y ait eu vraiment de dialogue.
Donc, la procédure durait depuis combien de temps ? Elle était particulièrement difficile ?
Alors, nous étions déjà passés devant le conseil des prud'hommes. La société avait perdu et nous étions à 3 semaines, donc très très proche du recours devant la cour d'appel.
D'accord, donc là, qui a pris l'initiative dans ces cas-là d'avoir recours au médiateur ? C'est votre entreprise en fait qui...
Lorsque nous avons discuté avec notre conseil sur cette affaire qui était pendante, elle nous a suggéré de passer par une médiation, donc une médiation judiciaire. Et après sa présentation, on a dit pourquoi pas, c'est peut-être la solution pour gagner du temps, pour lever, je dirais, cette incertitude qui est liée à un procès. Donc elle l'a proposé à la partie adverse et nous nous sommes retrouvés un beau jour devant le médiateur.
Et alors, qu'est-ce que ça a eu comme effet ? Est-ce que ça a permis une résolution du conflit beaucoup plus rapide qu'attendue ou de manière différente ?
Alors très rapidement, en fin de compte, puisque nous n'avons eu que 2 séances, donc grosso modo 4 heures de face à face, et ça a permis de lever tout un tas de barrières, en ce sens qu'il n'y avait pas eu de véritable communication au moment de la mise en route de ce conflit. Et c'était une attente de la part de la salariée de pouvoir s'exprimer, d'avoir en face d'elle quelqu'un qui puisse l'écouter et qu'elle puisse, tourner la page.
Et alors, ça l'a aidé à tourner la page, mais est-ce que ça a permis de résoudre le conflit de manière différente qu'attendue ?
Alors, le conflit a été totalement réglé avec un bon équilibre entre les deux parties, en fin de compte. D'abord, au niveau humain, ça a permis de s'écouter, de s'entendre, comme le disait tout à l'heure François Astoul. Ça a permis de gagner du temps, énormément de temps, parce qu'il y a toujours les aléas d'un procès, et on ne sait pas combien de temps ça va durer derrière, puisque les parties essayent d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour aboutir. Là, dans le cadre de cette médiation, et j'allais dire négociation en fin de compte, puisqu'il y avait une combinaison de médiation et de négociation, nous avons pu arriver à un parfait équilibre où les deux parties, sont reparties en se disant c'était une relation gagnant-gagnant, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi.
Père Luc Thomasson, c'est presque évangélique comme démarche, on se dit. Ça paraît simple et évident, pourtant c'est...
Oui, ça devrait être spontané, hein, d'une certaine manière. C'est ce qui a été dit. Je crois qu'il y a un aspect aussi, un mot qui m'est venu à l'esprit, qui n'a pas été prononcé et qui pourtant est vraiment sous-jacent à tout cela. Parce qu'au-delà de l'aspect technique qu'on a mis en évidence, donc souvent il y avait de l'affect, il y avait de l'humain qui a un caractère aussi problématique dans l'origine des conflits. Mais la médiation, elle permet aussi de faire émerger justement de l'humain positif. Et en particulier, il y a le mot qui me vient à l'esprit, c'est la confiance. Je crois qu'il ne peut pas y avoir une médiation sans un élément de confiance. Ça, elle suppose la confiance, elle développe la confiance. Et ce qui me vient à l'esprit aussi, par rapport à tout ce qui a été dit de positif par rapport à la médiation, et j'espère que ça a suscité l'enthousiasme des auditeurs, mais en même temps, il faut dire que le médiateur n'est qu'un médiateur. C'est-à-dire, son rôle, c'est de faire converger l'aspect positif des volontés des parties. Mais ce n'est pas un prestidigitateur. Il ne va pas sortir un lapin de son chapeau. Il ne va pas faire tout d'un coup produire une solution qui n'émanerait pas des parties. Donc, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que des volontés qui s'annulent ou qui se confrontent, on fait confiance sur le fait qu'il y a toujours quelque chose de positif dans ces volontés-là et qu'on recherche comment faire converger le positif de ces volontés.
Alors François Zousty, c'est pas un prestidigitateur, mais d'une certaine manière, il arrive avec quelque chose, j'allais dire de magique, mais enfin, non, pas du tout de magique, mais enfin, avec une intention qui est une intention de paix, en tout cas, ou de résolution du conflit en soi. Enfin, est-ce que c'est la disposition du médiateur qui fait recette ou miracle? Et vous me disiez pendant la pause que c'est pas tout à fait la culture aujourd'hui, enfin la culture actuelle.
Alors, ça l'est pas. Alors, c'est deux questions en une. C'est-à-dire que...
C'est ma spécialité.
Oui.
Vous avez remarqué?
Oui. Eh ben, je vais tâcher de faire ça dans un temps réduit. Donc, pour reprendre ce qui vient d'être dit, oui, le ferment de toute relation humaine, c'est la confiance. Donc, c'est ce qu'on essaie de reproduire d'abord un peu artificiellement au départ, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire deux personnes ne s'aiment pas. Et elles sont là. Donc, et petit à petit, justement, c'est d'avoir une ouverture du regard qui fait que on voit l'autre différemment, puisque ça a été évoqué en introduction, le ferment de la médiation, c'est pour ça qu'il y a des points communs, nécessairement, ce qui ont été évoqués par Père Thomas, c'est de reconnaître l'autre comme un autre soi-même. C'est le principe de Ricoeur de la mêmeté, c'est l'altérité, c'est-à-dire je reconnais enfin en l'autre quelqu'un qui est humain comme moi. Donc, nécessairement, le ferment est la confiance. Si le médiateur est chargé d'intentions, de bonnes intentions, assurément, c'est quelqu'un qui, je pense, doit être absolument très en énergie, mais aussi positif et optimiste, bien sûr. En revanche, il ne peut pas formuler d'intentions pour les personnes, parce qu'on l'a compris, ce sont les personnes elles-mêmes qui vont sortir de cette situation par la solution qu'elles ont trouvée. Donc c'est très socratique, voilà, c'est la maïeutique de départ. Après, forcément qu'il ne peut pas être magicien, il n'a pas de lapin dans le chapeau, il n'est même pas thaumaturge, et les gens qui décident de venir, c'est parce qu'ils ont décidé de travailler ensemble à la sortie de leurs difficultés. Voilà. Et pourquoi? Alors, pour répondre très rapidement, moi ce que je peux constater dans ma pratique, à la fois en relations humaines, mais aussi en juridique, c'est qu'on s'ouvre de plus en plus vers une autre façon de gérer son conflit et de résoudre son conflit. Culturellement, il y a une action de coopération. De plus en plus, les gens vont vers une idée de coopération pour assurer une issue positive à leur vie. Et ils ont envie de ça. Et ils ont envie d'humain.
Eh bien, très bien. Voilà une bonne nouvelle. On a bien fait de faire une émission sur la médiation. Merci beaucoup à tous nos invités d'être venus nous parler de la médiation. Merci au Père Luc Thomasson. Merci à vous, Yves Besset. Voilà, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.